Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de pouvoir échanger un petit peu avec Eric Lhomme à l'occasion de la sortie du premier tome de sa nouvelle série Terre Dragon. Donc un tome intitulé Le Souffle de Pierre. Bonjour Eric.
Bonjour.
Alors avant d'en venir un peu plus précisément au livre en tant que tel, est-ce que vous pouvez un peu nous retracer votre parcours et comment vous en êtes arrivé à l'écriture ?
Oula, c'est il nous faudrait peut-être des heures pour raconter les origines de cette belle histoire qui fait que aujourd'hui j'ai la chance d'écrire des livres pour la jeunesse et d'en vivre. On va dire simplement que j'ai passé une enfance heureuse à la campagne. Et que j'ai fait des études d'histoire assez poussées, j'ai fait beaucoup de voyages, et tous les moments de ma vie, les livres et l'imaginaire m'ont toujours accompagné. Voilà. Je pense peut-être qu'il est important je reviens juste sur le commencement du commencement, puisque énormément de choses importantes ont lieu pendant l'enfance. Mmh. J'ai eu la chance d'avoir une enfance sans télévision, par choix des parents. Et cette absence de télévision était compensée le soir par des lectures. Ma mère et mon père nous faisaient des lectures à tour de rôle, ma mère étant plutôt spécialisée dans les sagas au long cours. J'ai le souvenir de Nils Holgersson notamment raconté chapitre après chapitre, et mon père, lui, dans les légendes, la mythologie, etc. Donc je pense que c'est important parce que c'est voilà, les privés d'images imposées par la télévision, on était obligé de faire naître ces images dans ma tête, et voilà, c'est peut-être là que tout a commencé.
Et est-ce que ça aura une influence justement sur le fait de vouloir aussi conter des histoires pour les plus jeunes?
Alors, raconter des histoires, oui. Pour les plus jeunes, j'ai toujours rêvé d'être écrivain, mais on ne rêve pas d'être écrivain pour la jeunesse. On rêve d'être écrivain tout court. Ensuite, on écrit des histoires qui intéressent les adultes ou les enfants, mais ce n'est pas forcément nous qui choisissons. Et moi, je suis tombé en jeunesse par hasard. Bon, le hasard fait souvent bien les choses, puisque je m'y suis plu et apparemment... mes histoires ont plu. Voilà.
Et donc pour en rester aux questions encore un petit peu générales, au niveau de vos influences et sources d'inspiration, qu'est-ce qui vous a nourri en dehors des histoires justement racontées par vos parents?
Donc tous les contes, légendes, mythologies qui finalement, je ne le savais pas encore à l'époque, mais sont la base et le point de départ du genre que j'affectionne, qui est la fantasy. Tout puise, à commencer par Tolkien, son Seigneur des Anneaux. Il ne faut pas oublier que Tolkien est quand même le grand spécialiste du Beowulf. Hein. Il a écrit d'ailleurs davantage de pages sur cette saga ancienne, plus de pages qu'il en a écrites pour Le Seigneur des Anneaux. On retrouve dans la fantasy, j'ai retrouvé dans la fantasy tout ce que j'avais aimé dans la mythologie, dans les contes, les légendes. Donc tout naturellement, j'ai lu de la fantasy, j'ai lu aussi de la science-fiction. Commencé bien sûr par le space opéra. Je dis bien sûr parce qu'il y a un lien évident entre le space opéra et la fantasy. Pratchett disait avec humour que le space opéra, c'est de la fantasy avec des boulons. C'est de la fantasy avec des boulons.
Des boulons.
Et c'est exactement ça. J'ai simplement, on va dire que ce qui a changé un petit peu, c'est un peu plus tard, au niveau de mes influences, ça a été la découverte du fantastique et du surnaturel. J'ai été très sensible à tous ces thèmes-là, et d'ailleurs à peu près, je pense que la moitié de ce que j'ai écrit jusqu'à présent, enfin, ça se partage entre fantasy et fantastique. J'aime également beaucoup le fantastique.
Et donc pour en revenir à la, enfin pour en revenir, pour en venir tout simplement déjà dans un premier temps à Terre Dragon, d'où vous est venue l'idée de cette série? Parce que elle mêle un peu toutes les influences au niveau justement fantasy, fantastique, il y a de la magie, il y a un peu de
tout à fait
de religion aussi, un aspect historique également.
Alors il y a avant de parler du genre proprement dit, ça faisait un petit moment que j'étais parti du côté des ados et grands ados. Et je ressentais le besoin et l'envie de revenir vers une classe d'âge plus jeune. Parce qu'il faut quand même dire tout de suite que Terre Dragon est une série qui s'adresse à ce qu'on appelle aujourd'hui les juniors, donc à partir de 10 ans. C'est le lectorat en gros de ma première série, Le Livre des Étoiles, dans un genre différent, parce que je n'ai jusqu'à présent jamais écrit de l'heroic fantasy pure. Mm-hmm. Et donc j'ai eu envie d'écrire quelque chose pour ce public-là, des 10, 12 ans, 9, 13 ans, enfin pour élargir un petit peu. Et j'ai eu envie de leur raconter une histoire qui reprendrait un petit peu qui jouerait avec toute la grammaire du genre de l'heroic fantasy. C'est-à-dire que c'est en quelque sorte un catalogue, mais bien sûr pas présenté sous une forme de catalogue, mais de tout ce que j'aime dans l'heroic fantasy. Un royaume imaginaire avec des éléments naturels étranges, hein, en l'occurrence un fleuve qui charrie des eaux métalliques, des tribus et des peuplades de cultures très, très, très variées, la présence de la magie, la présence de guerriers, la présence de créatures je dirais pas maléfiques quoi que ce soit, de créatures dangereuses quoi, tout simplement. Elles se contentent d'être ce qu'elles sont quoi. Elles sont ni bonnes ni mauvaises. Ça pose juste un problème quand on les rencontre. Et bien sûr, il y a la quête, il y a voilà tout ça, tout ce que j'aime raconter. J'ai essayé de le mettre dans Terre Dragon avec. Évidemment, le sentiment de ne rien inventer carrément de neuf, ça n'est pas le but. Quand on écrit pour la jeunesse, on essaie d'ouvrir des portes, on essaie de donner des envies. Et mon objectif n'est pas d'écrire quelque chose de pointu, de partir dans un délire personnel qui serait peut-être novateur, mais qui laisserait en chemin la grande majorité des lecteurs éventuels. J'utilise des archétypes, j'utilise des ingrédients, je joue avec cette grammaire dont je parlais, pour ouvrir le genre, pour donner envie à des lecteurs de par la suite... De lire d'autres livres d'heroic fantasy.
Et justement, est-ce que ça n'a pas été un peu difficile? Parce que finalement, le roman est quand même assez court. Bon, c'est vrai qu'il s'adresse à un public plus jeune, mais il est assez court, mais en même temps, il est très dense. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout un univers qui se met en place. Et on en a quelques bribes, on n'a pas tout, mais il y a quand même énormément de choses. Et en même temps, le récit est fluide, ça se lit d'une traite. Est-ce que c'était pas difficile de lier les deux, de garder un récit fluide tout en donnant justement des détails sur l'univers?
C'est ce qui est difficile. C'est ce qui est difficile, j'aurais tendance à dire, avec les jeunes aujourd'hui. Je donne simplement un exemple. Je pense qu'il est presque impossible de faire aimer aujourd'hui du Jules Verne, par exemple, dans la version intégrale à des jeunes lecteurs, parce que il y a énormément de descriptions, il y a une très grande densité de descriptions de l'univers dans lequel se déroule l'histoire. Les jeunes aujourd'hui privilégient l'action, privilégient le rapport direct des personnages entre eux. Et donc c'est à chaque fois une difficulté pour un auteur jeunesse actuel de proposer un univers nouveau, parce qu'on est bien obligé de le décrire, on est bien obligé de monter le décor pour que l'imaginaire de l'enfant puisse projeter dedans les aventures de ces personnages. Et c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé deux aides pour ça. La première aide, c'est la fameuse saga de Ross Cleborne. J'ai donné une littérature générale commune à ce royaume qui est une saga parcellaire qui raconte le voyage du plus grand ménestrel, du plus grand barde, du plus grand scald du royaume à travers le royaume. Et c'est l'occasion, à travers les chants, de rebondir sur tel ou tel aspect du royaume. La deuxième chose que j'ai utilisée pour faire passer tout ça, c'est le chapitre court. Voilà. C'est-à-dire que même si les descriptions peuvent être un peu denses, un peu ramassées, un peu complètes, ça n'est jamais long. En fait, on passe tout de suite, l'instant d'après, à de l'action, à quelque chose.
Et donc, il y a un des éléments donc, que vous avez dit juste avant, que c'était une grammaire, finalement, de tout ce qui constitue l'heroic fantasy, de tout ce que vous aimez dans l'heroic fantasy. Et il y a une particularité tout de même, c'est que j'ai trouvé, c'est vous avez toujours un rapport à la magie, même dans vos ouvrages précédents. La magie revient toujours, et à chaque fois vous arrivez à trouver un système différent qui marche, qui fonctionne et qui s'intègre à l'univers, qui est plaisant et qui est à la fois aussi nouveau. Comment vous arrivez à trouver à chaque fois un nouveau système comme ça? Est-ce que c'est pas trop compliqué?
Alors c'est à la fois un nouveau système et effectivement pas un nouveau système, c'est-à-dire que depuis les graphèmes du Livre des Étoiles jusqu'au Toonlaz de Terre Dragon, passant par la magie elfique de Jasper dans Acom Association, etc., on est en terrain connu. C'est quand on veut faire de la magie sérieuse, on utilise des runes. Ça paraît évident. Donc je les appelle pas runes, mais j'utilise tout ce qui tourne autour, tout le système défini par la magie runique qui a existé dans l'histoire, mais que je me réapproprie, que je réinvente. C'est d'autant moins contournable que Tolkien lui-même utilise très largement les runes. Il en met un petit peu partout. Donc voilà, ça fait partie de la grammaire du genre. Et après, pour coller vraiment, pour faire coller ces magies aux univers, il faut penser logique, il faut penser harmonique en quelque sorte. Et donc c'est un univers qui est le royaume de Terre Dragon qui est balayé par les vents, c'est un univers de rochers, c'est un univers de rocailles, mais c'est aussi un univers de bois et c'est un univers de métal. Donc j'ai créé une cosmogonie et j'ai créé un panthéon lié à ces trois éléments, et j'ai rattaché la magie à ces trois éléments, le bois, la pierre, le métal. Voilà, et ça c'était quelque chose de nouveau. Mais en même temps, pas de nouveau, mais qui entre en cohérence avec un univers.
Et puis avec votre objectif qui est de permettre aux plus jeunes aussi d'appréhender un peu la fantaisie et ce qu'elle représente.
Ah oui, tout à fait. L'objectif premier d'un auteur jeunesse, en tout cas pour moi, c'est d'ouvrir des portes. D'ouvrir des portes pour un jeune lecteur.
Voilà. Et donc, la caractéristique de cet ouvrage, enfin de ce genre d'ouvrage aussi, c'est finalement d'être très orienté à action, effectivement, et d'être très visuel. On situe tout de suite ce qui se passe, comment ça se passe, etc. Et est-ce que vous avez jamais été tenté, par exemple, pour écrire, d'écrire pour d'autres supports, comme la bande dessinée, par exemple, ou,
Tenter, oui, mais je n'ai jamais, encore jamais eu l'occasion. Voilà, la réelle opportunité d'être emballé.
Et d'ailleurs, au niveau de l'illustration, par exemple, est-ce que vous avez eu votre mot à dire, par exemple, sur... Ah, ce serait bien si on avait ça ou...
Alors, pour toutes les illustrations de mes livres, mon éditeur, gentiment, me montre les couvertures. J'ai possibilité d'intervenir sur des détails, en fait. C'est pas mon métier, c'est pas... Je suis pas forcément le mieux placé pour juger de l'efficacité d'une couverture. Ce qu'il y a, c'est que par exemple, simplement sur une couverture, par exemple Terre Dragon, il y a sur la quatrième de couverture deux personnages. On reconnaît le mage aveugle, le vieux Gan le fou, et on reconnaît Doom le Scald, l'ami du héros qui joue comme une casserole et qui chante faux. Bon, il se trouve que sur l'illustration, le personnage est plus âgé que ce que je pensais moi, mais voilà, c'est comme ça que l'illustrateur l'a ressenti. Je respecte tout à fait son. Je n'ai pas d'idées préconçues sur les choses, mais par exemple, il avait sur le côté une épée, sur l'illustration quand on me l'a montré, et j'ai fait enlever cette épée. C'est un détail, mais qui est important, parce qu'il y a des moments où une situation dans le livre aurait pu se régler s'ils avaient eu une arme. Et le fait d'avoir justement, à un moment donné, ils utilisent la magie pour se défendre, ils provoquent quelque chose chez le personnage pour se défendre. Si Doom avait eu une épée, les choses se seraient peut-être passées autrement, donc il ne fallait pas qu'il ait d'épée. Donc dans le livre, il n'a pas d'épée, donc il ne fallait pas que le lecteur, en regardant simplement l'image, se dise « Mais il me semble bien qu'il a une épée, pourquoi il n'utilise pas son épée, etc. » Voilà.
Dans un souci de cohérence.
Exactement, pour coller avec le texte. Après, pour le reste, même si moi, j'imagine pas les personnages comme ça, ça n'a pas d'importance.
Et ça reste un monde quand même assez âpre, finalement, assez rude. Et donc dans la galerie de personnages, on a des adultes, on a aussi les enfants. Finalement, les enfants ont peut-être une vision un peu plus... On découvre le monde un peu avec eux, finalement. Enfin, le lecteur va découvrir le monde avec eux.
Oui. Déjà, mon personnage principal, je pense que je ne dévoile rien. Enfin, je dévoile rien d'important en disant que dans les premiers chapitres, il s'évade de la cage où il était enfermé depuis qu'il était petit. Donc, un jeune qui n'a entendu parler du royaume que par ce qu'il a entendu autour de lui pendant sa captivité, quand il va s'enfuir et découvrir physiquement le royaume, c'est évidemment prétexte pour ses compagnons de route ou pour le narrateur de décrire à son intention le monde dans lequel il va évoluer. Voilà. Donc le lecteur découvre en même temps que le héros l'univers de Terre Dragon.
Donc vous avez prévu combien de... Ça va s'étendre sur combien de volumes
C'est prévu pour être une trilogie. Je pense que ça sera une trilogie. Mais à chaque fois, tant qu'on n'est pas arrivé au bout de son écriture, on ne peut pas savoir. Mais ça sera, normalement, c'est prévu pour être une trilogie.
D'accord. Et donc, ensuite, au niveau de vos projets, autrement...
Alors, je m'interdis d'y penser parce que j'ai encore je suis en train d'achever le deuxième tome de la série. J'ai encore un troisième tome à écrire. Il ne faut pas que je me déconcentre et que je perds le fil.
Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors pour finir le mot de la fin un petit peu, qu'est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce que vous diriez pour définir un peu cette nouvelle série finalement?
Alors je dirais que c'est une avec Terre Dragon, je reviens un peu à mes premières amours, la fantasy, la magie et des personnages assez jeunes tels que j'ai pu les décrire dans le Livre des Étoiles. Mais c'est un univers qui est plus résolument héroïque, hein, et plus sombre également que vous l'aviez relevé tout à l'heure. C'est une histoire et une intrigue plus sombre que celle du Livre des Étoiles, tout simplement parce que je pense qu'en 15 ans, le monde est devenu plus sombre, tout simplement. Et c'est une manière d'accompagner aussi les lecteurs dans le monde qui est le leur.
Très bien, ben merci beaucoup pour toutes ces passionnantes réponses et au plaisir de vous retrouver pour la suite.
Et ben merci beaucoup.
Non, après, ouais, c'est ça. Celui-ci, en fait.